en fait, je vous dis au Cachin Oriental. J'ai pris totalement cette
équipe. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au plus d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'actifs de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette édition spéciale des paroles aux auditeurs en direct du centre Aroupé pour la recherche et la formation ici à Lubumbashi, 24 octobre 1945, 24 octobre 2015. 70 ans jour pour jour, l'Organisation des Nations Unies totalise les 70 ans d'existence. Dans son message à l'occasion de cette célébration, le secrétaire général des Nations Unies indique que le monde fait face à de nombreuses crises et l'action internationale et collective a malheureusement ses limites. Néanmoins, aucun pays ni organisme ne peut seul relever les défis d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la santé, l'agriculture, le développement, l'humanitaire ou le maintien de la paix, les Nations Unies appuient la RDC depuis plusieurs années. Comment la RDC peut-elle capitaliser tous les appuis qu'elle reçoit de l'ONU? C'est la question au centre de notre échange dans cette émission spéciale. Une forte équipe est en place pour vous servir. La mise en onde dans cette salle est assurée par Bob Landou et Pierre Yassinois est au studio central de Radio Okapi Lubumbashi. La coordination technique et la liaison sont assurées par Alain Vidoya. Julie Fesla est à la réalisation au studio central de Lubumbashi, assistée dans cette salle par Karine Sopé et Idati Nelly Kabina. Et cette production est soutenue par toute l'équipe de Radio Okapi Lubumbashi, Jean Gantou, Paulin Mounanga, Madeleine Waila, Denise Maéo et Colette Jumamoussompo. Ce magazine spécial dans cette salle est présenté par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Nana Rosine Dangoué, fidèle auditeur. Bienvenue dans cette émission spéciale sous applaudissements et acclamations, bien sûr. Merci à vous d'avoir choisi Radio Okapi et merci de votre déplacement dans cette salle pour participer à cet échange citoyen consacré au 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Et à cette occasion, Radio Okapi s'éponge avec vous sur la manière dont la RDC peut capitaliser les différents appuis qu'il reçoit des Nations Unies. Nous vous saluons tous et nous saluons particulièrement notre sponsor et partenaire dans cette production. Nous avons cité l'Abraliment. Sous vos applaudissements, bien sûr. Et pour cette émission spéciale, nous avons associé dans cette salle nos trois éminents invités à ma droite. Nous avons le professeur Jeff Moudimbi, professeur au département des sciences politiques et administratives ici à l'université de Lubumbashi. Professeur, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Et à ma gauche, Rachidi Akida, qu'on ne peut plus présenter parce que c'est monsieur la corruption. Il est le président de la lutte congolaise, de lutte contre la corruption. Et nous, à Radio Okapi, on l'appelle monsieur la corruption parce que c'est assez de la corruption, son cheval de bataille. Rachidi Akida, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et là-bas, on m'a dit, c'est la personne qui parle beaucoup dans cette salle, je crois. Elle va parler. C'est le professeur Banué Sedi, le professeur à l'université de Lubumbashi, directeur général de l'école supérieure de la gouvernance économique et politique, qu'on appelle communément Écolo Ecopo Lubumbashi. Sous vos applaudissements, bien sûr, pour accueillir nos invités. Et laissez-moi vous dire que la température, ça fait bien sur le Katanga aujourd'hui, il fait un peu chaud, il n'y a pas beaucoup d'air qui circule, mais quand même vous êtes déplacé pour venir ici, tout le monde est bien habillé, les couleurs sont pimpantes. Alors, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même pour cette émission spéciale? Voilà, y a-t-il moyen que les gens puissent se détendre un tout petit peu parce que c'est un échange citoyen qui est suivi en ce moment par des millions de personnes qui habitent la ville de Lubumbashi. Et cette émission sera diffusée en différé à Kinshasa. Ça sera le mercredi prochain. Merci de votre patience parce qu'il y en a qui sont ici dans cette salle depuis 9h. Alors, nous pouvons commencer notre échange. On commence avec vous, professeur Emmanuel Banoué Issedi. Pourriez-vous nous parler en quelques minutes, peut-être 2 minutes, de l'historique des Nations Unies en RDC, la coopération entre les Nations Unies en RDC. Et je sais que c'est important parce que nous avons choisi la ville de Lubumbashi parce que tout le monde le sait, la première mission d'intervention de l'ONU après la sortie de l'indépendance, c'était bien sûr lié à la province du Katanga dans les temps. Mais pourriez-vous nous parler dans quelques minutes tout simplement de l'historique Nations Unies RDC, professeur?
Je voudrais d'abord dire merci à Radio Kafi de m'avoir associé à cette émission. C'est un honneur pour moi. Et aussi merci à tous les collègues qui sont ici, à toute l'assistance. Bon, premièrement, il faut dire que c'est déjà en 1960 que l'Organisation des Nations Unies, en fait, intervient pour la première fois en République démocratique du Congo pour venir sauver les pays contre la partition, contre les chaos, et finalement d'aider le gouvernement central de Léopoldville à l'époque à pouvoir rétablir l'ordre public, à gérer la question liée à l'intégrité du territoire national, et finalement à gérer la paix et la sécurité, puisque à l'époque, comme on le sait, l'indépendance du pays est proclamée le 30 juin 1960. Déjà, le 11 juillet, les Katanga fait sécession. Et donc, voici qu'il y a une province rebelle au gouvernement central, à l'occurrence la province du Katanga, qui ne fait plus partie de l'ensemble Congo. Et là, le gouvernement de la République s'adresse à l'Organisation des Nations Unies pour lui demander d'intervenir. Et une mission va être envoyée en République démocratique du Congo sous la dénomination de l'ONUC. Et quand on voit, en fait, l'acte qui crée cette mission, il est dit qu'il s'agit de rétablir l'ordre public, de restaurer l'intégrité de la République démocratique du Congo, de maintenir la paix et la sécurité, et même d'aider à la mise en place d'une armée qui soit en mesure de garantir la défense et la sécurité du territoire national. Cette mission, en fait, arrivera à terme en 1964. Mais on peut noter donc qu'en 1960, nous avons sauvé notre pays contre la partition grâce à l'intervention des forces des Nations Unies. Nous avons maintenu notre unité nationale, l'intégrité de notre territoire et, disons-le, la souveraineté nationale, puisqu'on en parle maintenant. En fait, nous avons maintenu cette souveraineté nationale grâce à cette intervention-là. À partir également de la deuxième mission, évidemment, il y a eu d'autres interventions des Nations Unies sous diverses formes, parce qu'il y a plusieurs organismes des Nations Unies, notamment l'HCR, le FAO, ainsi de suite, qui interviennent aussi en République démocratique du Congo dans différents domaines, on va y revenir. Mais je me suis dit seulement sur la question de la paix et de la sécurité. Mm-hmm. En 2000, en fait, c'est encore une fois les Nations Unies qui interviennent pour sauver notre pays de la partition. Parce que, bon, souvent les Congolais que nous sommes, nous avons une courte mémoire. On oublie qu'en fait, dans les années 2000, nous n'avions plus vraiment un État. Parce que notre pays était, comment dirais-je, tiraillé entre quatre forces. Disons trois forces rebelles. À l'Est, il y avait le RCD qui administrait de facto des territoires. Au Nord, et au nord-est, il y avait le mouvement de libération du Congo qui administrait de facto des territoires, et puis une partie du territoire était administrée, bon, plus ou moins, par le gouvernement central, bon, et qui devait se disputer cette partie parce qu'on appelait l'opposition non armée. Et pour quitter dans mon village au sud Kivu, arriver au Katanga, on devait demander des autorisations à l'intérieur d'un pays. Et que donc, le Congo n'existait plus vraiment comme État. Et cette souveraineté dont on parle maintenant, en fait, elle n'existait plus. Et il a fallu
l'intervention. Grâce à l'intervention des Nations Unies. Et là, c'est dans le volet maintien de la paix. Si vous me permettez, que le professeur Jeff Mudimbi, non seulement les Nations Unies ont accompagné le pays dans ces secteurs de maintien de la paix, mais c'est aussi le renforcement des capacités des institutions. Alors, comment vous examinez la marche de la RDC par rapport à l'appui, parce qu'il y a eu après le dialogue des Sun City, les élections, la transition, les élections, les comités internationaux d'appui à la transition, les Nations Unies accompagnées pour les élections de 2006. Et pour vous, quelle est la manière dont la RDC a réagi par rapport à cet appui qu'elle a reçu sur les plans politiques dans l'accompagnement du processus après la sortie des crises en 2001 avec la signature de l'accord cadre de Sun City?
Merci beaucoup, M. Pierrot, pour la question que vous me posez, l'honneur que vous me faites en m'associant à la radio Papi. Je voudrais d'entrée de jeu souligner que si réellement il faudrait énumérer le soutien ou bien l'appui des Nations Unies à la RDC, je crois que nous pouvons faire toute une journée. Mm-hmm. Il est évident que l'ONU a été vraiment d'un recours très particulier en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais il est évident que, nonobstant cet appui-là, l'ensemble de la population congolaise n'arrive pas tellement à sentir cet appui-là ou ce soutien. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons constaté que les Congolais se comportent comme des mercenaires au Congo.
Ça veut dire ?
C'est-à-dire que nous n'avons pas l'amour d'abord pour notre pays. On est en RDC, mais on se comporte comme si on était sur une terre étrangère. On n'a pas réussi vraiment à capitaliser ça correctement. Je voudrais d'abord, ici, à titre exemplatif, faire remarquer que nous sommes en 2015 et l'année prochaine, il y aura les élections. Et pendant ce temps, nous savions déjà que depuis 2011, qu'il y aurait organisation des élections et ces élections pouvaient déjà commencer cette année. Est-ce qu'il est vraiment concevable qu'à ce niveau où nous nous retrouvons, qu'il se pose un problème d'argent pour l'organisation de certaines élections.
Et là, vous voulez dire, professeur, que malgré tous les efforts qui ont été fournis par la communauté internationale, les Nations Unies en particulier, nous n'avons pas pu nous approprier le processus pour nous dire, voilà, nous avons été appuyés, nous sommes sortis d'une crise, nous avons installé des institutions et nous devons maintenant planifier pour la consolidation de ces institutions. Nous avons été absents.
Effectivement, c'est ça. Pourquoi ? Parce que l'appui signifie quoi ? Lorsqu'on parle de l'appui, cela signifie que d'abord, à notre niveau, l'appui vient d'abord suppléer
sur ce que nous faisons.
Mais remarquez, les Nations Unies ont fait beaucoup de choses, mais actuellement, sans l'appui des Nations Unies, pour pouvoir nous poser les questions de savoir où est-ce que nous sommes.
Alors, parce que vous avez dit où est-ce que nous sommes, Rachidi Akida, il y a la question de la gouvernance qui se pose chaque fois. Dans l'organisation des Nations Unies, le programme TEPNUD pour appuyer la RDC, et c'est parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Si on peut bien suivre le professeur Jeff Moudimbi, qu'on n'est pas arrivé à planifier l'organisation des élections. Quelle a été notre faille, Rachidi Akida?
Merci M. Pierrot pour l'invitation. C'est une occasion pour moi de saluer d'abord tous les auditeurs de la radio Capi. Je voudrais juste vous dire une chose sur la capitalisation, n'est-ce pas, de ces appuis du côté de la bonne gouvernance. Vous savez très bien que certains dons qui ont été donnés par les Nations Unies au gouvernement congolais n'ont pas été gérés de manière efficiente. Certains dons ont été détournés. Ici, je dois m'appesantir sur les dons qu'on donne aux militaires. Les ONG de la société civile avaient déjà appuyé la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement que ces dons-là sont détournés. Il suffit seulement de passer sur certains marchés à Kinshasa, notamment le marché Zigida, et certains marchés au niveau de Goma, vous allez trouver les haricots qui sont vendus. Et ces haricots-là appartenaient aux militaires. Donc c'est une question de bonne gouvernance. Il n'y en a pas ici chez nous. Je n'aurais pas honte de le dire parce que j'ai toujours dit ça haut et fort que nous n'avons pas une bonne gouvernance ici.
Malgré tous les efforts qui ont été fournis, vous estimez qu'on n'est pas arrivé vraiment à atteindre un niveau de bonne gouvernance qui puisse nous permettre d'aller de l'avant.
Absolument.
Et voilà, nous allons vous accorder la parole. Vous êtes dans cette salle, le règle des jeux, vous soulevez la main, il y a deux micros qui sont en train de circuler parce que nous sommes nombreux et qu'on ne saura pas faire passer tout le monde. On va vous accorder le micro en 2 minutes. C'est d'une manière concise et claire, vous vous exprimez sur ce que vous pensez qui doit être fait. Mais en attendant, ils sont nombreux qui écoutent Radio Capi. Nous avons Madame Joséphine qui nous a appelé tout à l'heure de Boston aux États-Unis d'Amérique. Madame Joséphine, vous nous avez rejoint dans cette émission. Vous avez séjourné il y a 2 semaines ici à Lubumbashi. Vous êtes rentré aux États-Unis d'Amérique. Et nous parlons de la capitalisation de l'appui des Nations Unies par la RDC. Madame Joséphine, qu'est-ce que nous pouvons faire et d'une manière brève? Vous êtes avec nous en direct de Boston.
Merci beaucoup, Radio Capi. Je suis très contente parce que vous m'avez passé la parole. Je veux féliciter la MONUSCO d'emblée en général parce qu'il est en train de faire tout ce qu'il fait. Mais il y a un an, à quand est-ce que la guerre au Congo va se terminer? Moi, j'aimerais un jour que la MONUSCO puisse causer avec les dirigeants de la République démocratique du Congo, tout en citant le président de la République et tous ceux-là qui dirigent le Congo, pour parler calmement, voir dans quels moyens, par quels moyens la guerre au Congo peut se terminer. Merci beaucoup, parce que ça fait longtemps que la MONUSCO est au Congo quand même. Et la guerre continue jusque même au Katanga, même dans toutes les autres régions. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
Merci Madame Joséphine de nous avoir appelé de Boston aux États-Unis d'Amérique. Vous estimez, vous, dans le volet maintien de la paix, qu'il faudrait que la guerre prenne fin. Alors nous avons déjà dans la salle Nelly Kabena, vous avez quelqu'un à côté, je crois bien.
Oui, évidemment, Pierrot, nous avons Maître Sanville qui a un mot à dire.
Voilà, c'est un véritable plaisir de voir en live Maître Sanville, Jérôme Boumbashi, qui intervient presque tous les jours dans notre émission. Maître, vous avez la parole.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à tout l'auditoire. J'estime que le peuple congolais n'a pas su s'approprier les acquis de la MONUSCO. Tous les efforts fournis par la MONUSCO sont vains. Pourquoi je dis ça? La MONUSCO nous a permis d'abord d'avoir une constitution, la constitution que nous sommes en train de violer à tout moment. Si je l'ai dit par rapport à la situation qui prévaut pour le moment au niveau du Katanga, la liberté de manifestation, il y a une liberté qui est sélective. Aujourd'hui, pour votre gouvernement, M. Pierrot, je vous dirais qu'il y a même eu M. Danim Baza qui a été interpellé hier au niveau de l'ANR province, puisqu'il devait manifester, puisqu'il devait donner quelques explications au niveau de la population. Mais il a été convoqué par l'ANR. Nous estimons que ces acquis-là, nous sommes dans l'obligation de les approprier. Par rapport aussi à ça, la démocratie. Qu'est-ce que veut dire la démocratie, M. Pierrot? La liberté d'expression. On voit les autorités, les politiciens arrêtés par-ci par-là à tort et à travers, sans parler du cas de Muyambo, du bâtonnier Muyambo, du cas du professeur Chibangalala, qui sont arrêtés arbitrairement. Mais où est-ce que nous allons avec ce pays? Alors nous estimons que nous invitons le gouvernement à bien s'approprier ses acquis. Les acquis de la MONUSCO.
Vous pensez vraiment en bref, parce qu'il faut qu'on gagne le temps. Pensez-vous que l'appropriation des acquis, c'est une question des gouvernants ou c'est une question de tout le monde, la société, y compris la population?
D'abord, c'est une question des gouvernants, parce qu'aujourd'hui, si nous assistons sur au Katanga, du côté du pouvoir, lorsqu'il y a manifestation, aujourd'hui, pour votre gouvernement, M. Pierrot, je vous dis que M. Mobatakadi, le secrétaire de PPRD, sera accueilli au niveau de l'écologie. Et il y a une sensibilisation totale. Mais pourquoi ne pas permettre aussi à l'opposition de manifester?
Alors, vous avez dit que il y a encore de comptes qui doivent être fournis dans le cadre de la liberté de manifestation, d'expression, et il y a des efforts à fournir. Quand rien n'est qu'il y a quelqu'un à côté de vous, s'il y a-t-il un son d'écoche contraire à ce que Maître Sandil venait de dire tout à l'heure, Karine?
En tout cas, il y a Maître Dinganga juste à côté de moi, je vais donner le micro pour prendre la parole.
Maître Dinganga, vous avez suivi Maître Sandil, pensez-vous vraiment qu'il n'y ait pas, la RDC n'a fourni aucun effort dans le cadre de la liberté de manifestation, dans le cadre de s'approprier les acquis de l'appui des Nations Unies aujourd'hui?
Ah oui, mais Maître Sandil va un peu trop vite. En fait, chacun a sa part. Parce que quand vous voyez même à l'est du pays, il y a des fois où la population, entre guillemets, un peu comme l'a dit le professeur, où on se comporte un peu comme mercenaires, vous ne savez plus qui fait la loi. Il y a des militaires qui ont leur part, il y a aussi l'ONU qui regarde de loin ce qui se passe, il y a aussi la population. Donc chacun doit avoir sa part, et l'ONU a sa part, et le gouvernement, il faut des sanctions sévères. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la criminalité est pire qu'avant l'existence de l'ONU. C'est pas normal. Donc, chacun doit avoir sa part, et c'est pour le bien de tout le monde.
Mais quand vous dites que chacun doit avoir sa part, où est-ce que l'ONU doit se limiter, et où est-ce que nous, les Congolais, nous devons commencer, maître?
Un État indépendant, donc il y a toujours un surplus. L'ONU ne va pas prendre la place du gouvernement, non. Et le gouvernement aussi ne va pas tout laisser à l'ONU. Bon, ils doivent quand même s'entendre.
voilà.
Pour
parce
que il y ait une personne.
Voilà, il faut qu'il y ait des enfants qui doivent être fournis à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a une voix féminine qui peut quand même s'exprimer? Ça fait déjà. Non, il y a eu une voix tout à l'heure aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a eu une voix féminine dans la salle tout à l'heure? Pas encore. Les dames ne sont pas encore disponibles.
Oui, il y a une voix féminine.
Voilà, Karine, de ce côté-là, une voix féminine. Vous pouvez passer le micro.
Madame, vous pouvez vous présenter?
C'est Madame Jeanne Matambo. J'ai beaucoup entendu sur la bonne gouvernance, mais on oublie quelque chose. La bonne gouvernance, c'est une affaire d'hommes. Ça concerne essentiellement les individus. Donc, aussi longtemps que nous conférons notre pays, les descendants de ce pays, entre les mains des opportunistes, on aura toujours les mêmes problèmes de la bonne gouvernance. C'est tout ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qu'il a dit.
Voilà. Et là, ajouter le problème des opportunistes, il y a des acclamations dans la salle, c'est que ce message est arrivé. Non, mais Nelly, avant que madame s'exprime, professeur Emmanuel, il y a le problème de la bonne gouvernance. On dit qu'il faut s'approprier la bonne gouvernance. En bref, peut-être en deux minutes, s'approprier la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous approprier la bonne gouvernance?
Enfin, s'approprier la bonne gouvernance, ça signifie qu'il faut gérer les territoires et les populations qui sont sur ces territoires en suivant des règles qui sont établies et notamment dans la Constitution. Un pays ne se gère pas au gré des humeurs des individus, sinon on rentre dans l'arbitraire, on rentre dans les régimes que nous avons décrits hier. Malheureusement, c'est là que nous sommes en train de rentrer. Je crois que la bonne gouvernance signifie qu'un État doit être gouverné selon des règles bien établies qui ont été en fait promulguées officiellement par ceux qui ont en charge de promulguer des lois et qui ont été auparavant évidemment élaborées par la constituante et que ces règles doivent être connues par tous et que ces règles ne peuvent pas changer au gré des intérêts des uns ou des autres. Parce que, précisément, lorsqu'on parle de cette question de la gouvernance, on peut noter que les crises que nous avons, parce qu'on a parlé dans... les intervenants ont parlé des crises, les crises que nous avons ont des sources majeures. Et cela, ce n'est pas notre invention, ça se trouve dans les préambules même de notre constitution. Mais on peut le résumer en deux termes. Il y a une rupture de conscience aujourd'hui dans la société congolaise, entre les gouvernants et les gouvernés, entre les citoyens même. Et cette rupture de conscience est doublée aussi par des désaccords du type constitutionnel. La plupart de nos crises naissent de ça, des désaccords du type constitutionnel, et pas seulement chez nous, en Afrique globalement, mais nous sommes chez nous. Et que donc, c'est deux types de mots. La rupture de confiance et les désaccords d'ordre constitutionnel soulèvent alors la question du type de gouvernance. Quelle est la moralité même de notre gouvernementalité? Comment voulons-nous pratiquer l'État? Parce que quand on parle de la gouvernementalité, il s'agit d'une certaine façon de pratiquer l'État. Il s'agit de la façon dont un pouvoir politique en place réfléchit sa pratique de l'État. Comment il gouverne les territoires et les populations? Et là, je voudrais rassurer maître. En fait, il faudrait qu'on pense, qu'on cesse de penser que les forces des Nations Unies, la MONUSCO en l'occurrence, est là pour se substituer au gouvernement congolais. Sinon, alors, ça ne sert plus à rien de répéter que nous sommes souverains. Si nous pensons vraiment que nous sommes souverains, nous devons intérioriser l'idée selon laquelle, si un peuple est incapable de se défendre, il vaut mieux qu'il ne s'appelle pas État.
Alors, parce que vous avez insisté sur le fait que les Nations Unies ne doivent pas substituer, nous avons dit quand même que les Nations Unies, ce n'est pas seulement la MONUSCO, parce qu'aujourd'hui, le débat tourne souvent autour de la MONUSCO, il y a l'UNICEF, il y a les PLUS, il y a les FAO, il y a les autres aujourd'hui dans les Katanga qui assistent des dizaines de personnes et des centaines de milliers de personnes déplacées, il y a les HR, il y a aussi beaucoup d'autres agences du système des Nations Unies qui nous accompagnent, non seulement le problème qui touche au maintien de la paix avec la MONUSCO, mais madame, vous voudrez bien parler, c'est possible, madame. Mais parce que depuis le début, on accuse plus les gouvernants. Mais les gouvernants sont composés de nous qui, demain, nous sommes dans les partis politiques, nous sommes à la société civile et nous accédons au pouvoir pour gouverner. Mais pour tous ceux-là qui, aujourd'hui, sont dans cette salle et qui nous écoutent, et vous-même particulièrement, quelle est votre part de responsabilité aujourd'hui? Parce que demain, vous pouvez accéder, si je ne sais pas ce que vous faites, peut-être que demain, vous pouvez accéder au poste de responsabilité. Quelle sera alors votre part et votre responsabilité dans la propagation de ces acquis, madame?
Merci beaucoup. Je pense que Dieu écoute vos propos d'aujourd'hui. C'est Madame Bernadette Kapende Mwambu, je suis présidente du réseau Femmes et Développement, les Restes Katanga, ex-Katanga bien sûr.
je pense que vous avez eu à sillonner mes idées. Je voulais m'opposer à ceux qui ont intervenu avant, quelques propositions de ceux qui ont intervenu avant moi, de considérer les acquis de l'ONU comme une affaire de gouvernement. Moi, je dis non. Considérer les acquis de l'ONU comme affaire de gouvernement, ce n'est pas vrai. C'est l'affaire de tout le monde, les acquis de l'ONU. Nous tous, nous devons nous en approprier. Et aujourd'hui où nous nous sommes appropriés de certains acquis des Nations Unies. Bien sûr, il y a plusieurs faiblesses qui se présentent, mais nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Il y a eu des avancées significatives et nous n'avons pas vraiment suffisamment de temps pour les énumérer.
C'est vrai, vous avez
raison. Par exemple, nous pouvons citer la formule 1 plus 4. C'est une formule excessivement compliquée, mais qui a réussi dans notre pays grâce à l'accompagnement des Nations Unies, grâce à l'accompagnement des systèmes internationaux qui a accompagné ces processus jusqu'à l'aboutissement des élections libres et démocratiques dans ces pays.
Voilà.
Nous allons dire également la résolution 1325. Qui nous concerne
les femmes. Mais j'aurais aimé voir, d'ailleurs, j'aurais aimé voir beaucoup de femmes dans la salle. Mais il faudrait que les femmes travaillent à ce niveau-là, comment s'approprier effectivement cette résolution.
Oui, nous nous sommes en approprié, nous, certaines femmes congolaises, qui étaient informées, qui ont été formées. Et nous savons que cet acquis-là est très excessivement.
Mais est-ce qu'on peut acclamer pour la dame et l'appareil plus que les hommes beaucoup de temps? Merci. Ça fait plaisir. Mais Nelly, Maître Sondil a été contredit parce que madame estime que ce n'est pas une affaire de gouvernants. Mais est-ce qu'il y a une autre personne voilà, peut-être mais à traîner Karine. Et je voudrais savoir si vous estimez que nous avons effectivement, vous, monsieur, vous présentez, est-ce que vous estimez que nous avons assez évolué sur le plan des libertés publiques? Parce que ça aussi, c'est le travail des Nations Unies par rapport à la défense des droits de l'homme, au renforcement des libertés publiques. Pensez-vous que nous avons assez évolué, nous avons reculé, ou il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir un peu rapidement?
Merci, monsieur Pierrot. Bonjour et bonjour la salle. Moi, j'aimerais, en tout cas, je suis de Lubumbashi, je suis natif d'ici. J'aimerais que je combine les deux langues pour la bonne compréhension de ce qui sont
dans mais ça va être très compliqué pour moi-même, je ne saurais pas
si vous allez comprendre.
La parole aux auditeurs s'exprime difficilement en langue.
Ils sont dans les trois fonds de Lubumbashi.
Voilà. Moi, je vais respecter les règles des jeux et que nous n'avons pas beaucoup de minutes, s'il vous plaît.
Ok. Moi, je voulais emboîter les pas à Maître Sondil. Maître Sondil, merci beaucoup.
Maître Sondil.
Oui, je sais que la bonne gouvernance, si vous pouvez la traduire, c'est diriger, gérer, commander, faire des ci, faire cela. C'est l'affaire de tout le monde. Mais dans une maison, M. Pierrot, le papa et la maman mangent deux fois par jour et les enfants mangent une fois. Le papa et la maman, le matin, déjeunent et les enfants mangent les kimbala pour attendre le repas du soir. Vous allez me dire que dans cette maison, il y a une bonne gouvernance? Les enfants ne se retrouvent pas. Donc, c'est l'exemple de notre pays.
Alors, vous voulez
un pays extrêmement riche, aux habitants extrêmement pauvres? Mais
en donnant cet exemple des parents, vous voulez dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le même niveau de vie, le même degré de vie, c'est ça? Il y en a qui gagnent beaucoup, qui vivent mieux,
oui,
et qui souffrent.
Oui, donc ça, la bonne gouvernance, M. Pierrot, c'est qu'il faut que tout un chacun se retrouve.
Se retrouve, la distribution qui des richesses.
Oui, mais maintenant, moi je ne me retrouve pas, Maître Zombie ne se retrouve pas, la population est retrouve. À Béni, par exemple, je peux dire, ils sont en otage, donc le pays est en otage. Que diriez-vous?
Alors, maintenant, c'est qu'il faut faire
pas la bonne gouvernance.
Voilà, dans cette émission, nous dégageons ensemble les pistes et les solutions pour
que
vous
puissiez les solutions. Voilà, les pistes et les solutions, M. Pierrot,
rapidement,
il a dit il faut finir.
Il faut punir ceux qui commettent à
dire qu'il faut punir les pays.
Voilà, ça c'est important. Nous sommes en direct du centre AOP pour la recherche et la formation pour cette émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée au 70e anniversaire des Nations Unies. Bienvenue à tous dans cette salle et surtout sous vos applaudissements.
Aux auditeurs en direct de Lubumbashi le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h15 local. Venez nombreux, vous tous, acteurs politiques, sociétés civiles, étudiants, à cette grande émission au centre Aroupé, sur l'avenue Kinela-Balanda, commune de Lubumbashi, prendre la parole dans cette édition spéciale pour les 70 ans des Nations Unies.
Maïel, vous êtes à Lubumbashi, à la
au menu, le bilan des activités des Nations Unies NRDC et d'autres sujets qui vous concernent. Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi, c'est le mercredi 28 octobre 2015, de 11h à 12h, gare locale, au centre Aroupé avec Pierrot et la Mégie. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Peut-être que tout le monde ne pourra pas s'exprimer. Parole aux auditeurs, il est 1h15, juste beaucoup de gens vont ruminer pour dire mais pourquoi on a été là, on ne s'est pas exprimé. Est-ce que le micro peut encore circuler? Mais en attendant, pendant que vous choisissez une personne, nous allons prendre quelqu'un qui nous appelle des Kananga. Maître Adrien, vous êtes avec nous, vous nous avez appelé des Kananga dans la province du Kasaï Central. Merci de vous être joint à nous et aux auditeurs de Lubumbashi. Maître Adrien, bonjour, on vous écoute. Rapidement, Maître Adrien, en une minute, votre intervention.
Oui, merci beaucoup, Pierrot, la merci de la parole que vous m'accordez. Je pense que c'est une très bonne chose d'abord que je souhaite une très bonne fête aux Nations Unies. Je pense que le Zaki passe par un dialogue permanent, parce que lorsque nous constatons que le manque de dialogue crée vraiment des problèmes sérieux, crée des troubles. Deuxièmement, il faut vraiment éviter des injustices. Parce que lorsqu'il y a injustice, ça pousse à ceux-là qui sont victimes de cette injustice de créer des problèmes. Et puis, troisièmement, je pense qu'il faut une forte sensibilisation vis-à-vis de la population pour que la population sache que la paix, c'est une vertu et la violence, c'est une chose qui n'est pas encouragée, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Adrien de Kananga au Kasaï Occidental. Vous avez parlé du dialogue, de la lutte contre les injustices et de la sensibilisation sur les questions de la paix. Monsieur, vous allez vous exprimer. Est-ce qu'on peut dire, on peut demander à Rachidi Akida, déplacé Imon, la question de la gouvernance est revenue. Les gens estiment que toutes les questions doivent être résolues par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous faites dans votre structure pour arriver à aider les gouvernants, ceux qui accèdent au pouvoir demain? Parce que le pouvoir est composé aujourd'hui de ceux qui étaient avec vous dans la société civile, mais quand ils sont dans les institutions, ils sont accusés de la même manière qu'eux aussi accusaient les autres quand ils étaient dans la société civile. Alors, quels sont les efforts que vous fournissez de votre côté pour aider les gouvernants, effectivement, dans l'amélioration de la question de la gouvernance? Rapidement, avant qu'on prenne encore quelqu'un dans la salle.
Je voudrais apaiser Mme Kapend qui a dit là qu'il y a eu des avancées significatives. Lorsque les Nations Unies nous avaient accompagnés au niveau des Sand City, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait un conflit entre les hommes politiques et les forces vives de la nation. Nous avions trouvé un consensus, c'est-à-dire quoi? Il fallait diriger ce pays par ce qu'on appelle aujourd'hui alternance. C'était pour permettre à que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, qu'il y ait d'autres. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? On ne veut pas organiser les élections. Ça, c'est une chose très importante. Et nous allons encore rentrer sur cet dialogue. On parle de dialogue. On était à Kinshasa, vous avez suivi. Il y avait des concertations. Chaque jour, on ne fait que rentrer sur les mêmes choses. Et il y a même un politicien qui nous a proposé qu'il faut qu'il y ait un gouvernement avec 3 vice-présidents de la République. Est-ce qu'il y a eu avancé? Donc, on rentre encore sur 1 plus 4. Hier, on était 1 plus 4. Hier, aujourd'hui, il y aura 1 plus 3.
Et donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas, il y a là une absence d'une volonté politique?
Il y a une absence brillante d'une volonté politique des hommes qui sont au pouvoir. Et même quand madame a parlé des dons, qu'il y a des opportunistes, effectivement, ce sont qui dirigent, qui sont opportunistes. On ne peut pas demander à une population qui est à Lubumbashi ou à Katanga de gérer les appuis des Nations Unies. Ceux qui reçoivent ces appuis, ce sont ceux qui sont au pouvoir, monsieur Pierrot. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui détournent, au lieu d'affecter ces dons
dans le projet pour lequel ces dons ont été donnés, mais ils détournent pour leurs fins propres, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la société civile? Parce que je venais de dire tout à l'heure que le pouvoir est composé de ceux qui sont la politique, mais il y a plusieurs personnes qui sont parties de la société civile aujourd'hui qui sont dans les institutions.
Tous les jours, les acteurs de la société civile ont toujours dénoncé. Mais lorsque nous dénonçons, nous n'avons pas une prison, nous n'avons pas de l'armée,
et
nous n'avons
rien du tout qui détient le pouvoir.
Et c'est lui qui arrive
à ce lieu. Et voilà, le jeune maître Sauvic qui parlait tout à l'heure de la lutte contre l'impunité. Il y a déjà quelqu'un qui a le micro dans la salle, messieurs. En une minute aussi, votre intervention par rapport à comment nous approprier les acquis de la Nations Unies.
Merci beaucoup. Moi, c'est Clément Kabemba, je suis licencié en droit. Je voulais aussi donner mon point de vue. Nous devons d'abord éclairer la population congolaise. Toutes les interventions des Nations Unies, ce n'est pas... toutes les interventions des Nations Unies au Congo, ce n'est pas une dette pour la RDC. C'est un droit. Parce que la mission des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le droit à la paix, c'est un droit pour le peuple congolais et c'est un devoir pour les Nations Unies. Voilà pourquoi je profite cette occasion de l'anniversaire des Nations Unies, 70 ans d'anniversaire, qu'on puisse réformer la charte des Nations Unies pour éviter qu'il y ait aussi les dégâts comme c'était passé avec la Société des Nations. Parce que les Nations Unies n'est pas la première organisation à créer au monde. Il y avait la Société des Nations. Mais aujourd'hui, nous tendons vers le chaos. Alors, voyons aujourd'hui, beaucoup de guerres au monde sont parrainées par les pays permanents, les pays membres permanents du Conseil de sécurité.
Et d'ailleurs, les débats, ces discussions se déroulent chaque fois. Vous avez suivi, beaucoup de gens estiment qu'il faudrait réformer aujourd'hui la Charte des Nations Unies. Ça, c'est votre souhait. Et vous estimez qu'en réformant la Charte des Nations Unies, on peut résoudre beaucoup d'autres questions qui se posent dans beaucoup de pays. Mais on ne saura plus vous laisser continuer parce qu'on a reçu beaucoup de messages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Il y a notre compatriote Abelange Spon qui nous a écrit des Kinshasa qui estime, lui, que la RDC doit faire un effort. C'est au niveau de gouvernement pour pouvoir s'approprier les acquis de soutien de Nations Unies. Il y a Botric Matisse qui nous a proposé les renforcements des capacités. Il souhaite que les Nations Unies puissent aider la RDC à renforcer les capacités dans les questions de gouvernance et de gestion. Voilà, on était déjà à ma droite, à ma gauche. Nous avons trois personnes. On est débordé. Voilà. On va revenir à vous, monsieur. On va revenir à vous. Je vous promets qu'on va vous accorder la parole juste après. Nelly est déjà avec quelqu'un de l'autre côté. Nelly, on vous accorde la parole et on revient à vous, monsieur.
Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Kakel. Je suis du réseau solidaire des jeunes entrepreneurs du Congo. Mm-hmm. Ma contribution est dans l'aspect sécuritaire. Juste rapidement, je voudrais dire que avant 2001, les conditions sécuritaires dans notre pays étaient tellement dramatiques. Avec l'intervention des Nations Unies, il y a eu un certain consensus entre les Congolais qui ont quand même accepté de se mettre ensemble. Et si on doit faire une étude comparative, voir les conditions de sécurité actuelles par rapport à celles que nous avions durant cette période, on doit quand même dire qu'il y a une certaine amélioration. Bien qu'on n'ait pas totalement atteint la perfection, mais quand même il y avait des Congolais qui ont accepté de se mettre ensemble et de pouvoir trouver des solutions par rapport à cela. C'est juste cette contribution que je voulais apporter.
Merci beaucoup. Le temps que Nelly puisse marcher pour donner la parole à monsieur le professeur Jeff Moudimbi, quand on écoute les uns les autres, on se rend compte qu'on se résigne derrière la volonté de gouvernants, des politiques, et de ne pas aider les choses à évoluer dans le sens de voir ces acquis aider la RDC à aller de l'avant. Alors, eu égard à tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut dire alors par rapport à la manière dont nous concevons notre politique dans l'idée de consolider les acquis des faits que nous avons déjà reçus?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Je voudrais dire ceci, que le développement de la RDC ne dépend pas des Nations Unies, mais dépend des Congolais eux-mêmes. Je ne voudrais pas à ce niveau ici que nous puissions incriminer les Nations Unies parce que les Nations Unies ont beaucoup fait pour la République démocratique.
Mais je crois, professeur, beaucoup de gens n'ont pas incriminé, mais c'est plus les gouvernements qui ont été chargés.
J'y arrive. Et je voudrais aussi souligner une chose, qu'on ne développe pas un peuple, mais le peuple se développe de lui-même. Mm-hmm. Alors, il faudrait vraiment que nous puissions, comme je l'ai dit ici, capitaliser cet appui des Nations Unies, d'abord par la gouvernance, c'est-à-dire faire de sorte que la RDC puisse devenir ici un État capacitaire dans les relations internationales. Mm-hmm. C'est-à-dire nous devons vraiment avoir les capacités de pouvoir nous imposer comme une nation souveraine dans les concerts des nations. Je voudrais ici demander à l'Auguste Assemblée de réfléchir un peu un moment. Les Nations Unies sont au Congo depuis belle lurette, mais à l'heure qu'il est, s'il était demandé aux forces de la MONUSCO de quitter la RDC, que deviendrons-nous? Et c'est pourquoi je voudrais dire ceci, que pendant ce temps où les Nations Unies sont en train de nous aider, cette période ici de stabilité, il est important que nous puissions arriver ici à promouvoir une armée capable de nous offrir des garanties suffisantes de combativité. Nous devons être en mesure de promouvoir une économie qui puisse répondre aux besoins de la population. Mais regardez, la corruption vraiment devient, on dirait, une monnaie courante. Les Congolais ne réfléchissent que à travers la corruption. Il y a certains droits, mais que l'on nous présente comme étant des faveurs. Nous devons éradiquer le détournement des deniers publics. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a relevé un fait, il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais s'il y a à ce niveau-là une bonne répartition des revenus nationaux, et le problème ne se poserait pas. Et enfin, je voudrais que nous puissions refonder l'État, et la refondation de l'État passe par le respect des vertus démocratiques.
Le respect des vertus démocratiques.
Oui.
Alors, monsieur le professeur, on va revenir à vous pour avoir un maximum d'intervenants dans la salle. Il y a aussi un autre intervenant derrière, il y a 3-4. Ils sont très nombreux. Monsieur, on vous accorde la parole.
Lui, c'est monsieur Ajay Matembo, Toto, si vous voulez aussi s'exprimer.
Monsieur, vous avez aussi 1 minute 30 secondes.
Merci. Il me sera difficile de pouvoir m'exprimer valablement dans 1 minute et 30 secondes.
Dommage, c'est l'émission à qui
je ferai de mon mieux pour me faire comprendre. Je prends juste le volet, la capitalisation des acquis des Nations Unies. Moi, aujourd'hui, je suis en train de pleurer à moi parce que je viens de me rendre compte que parmi les acquis fondamentaux que le peuple congolais, par le truchement de son dirigeant, devait conserver, devait capitaliser, cela n'a pas été fait. Je vais rappeler à l'assistance ici que ce pays a passé pendant 25 ans, de 1990 à 2005, d'une grande crise qu'on appelle la crise de légitimité. Mm-hmm. Mais avec l'accompagnement des Nations Unies, nous sommes arrivés à mettre fin à cette crise lors de l'accord de Saint-Titi, où nous avions acquis quelque chose de valeur que nous citons, la Constitution. Voilà au moins l'acquis que le peuple congolais devait préserver. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, malgré l'appui des Nations Unies, mais nous constatons dans le chef des dirigeants congolais, au lieu de prendre cette constitution comme la loi fondamentale, ils veulent se remplacer, se situer à celle-ci pour devenir des hommes forts sur les institutions faibles.
Voilà.
Voilà au moins, nous disons ceci. Nous disons ceci. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas capitaliser les acquis avec une direction à la tête du pays sans vision. Et cela aussi dépend de la qualité du citoyen que nous voulons réformer pour que cette fois-ci, le citoyen maîtrise qu'il va de son.
Mais c'est la responsabilité. La responsabilité aussi des partis politiques, de la société civile, de pouvoir former la population, parce que c'est la population qui opère les choix. Mais il y a un jeune qui voudrait bien intervenir. Mais bien trouver de la parole au jeune qui est juste à votre gauche. Le jeune qui est juste ici d'abord, celui qui est à votre gauche, et puis après on va donner, il y a beaucoup de jeunes qui veulent bien s'exprimer. On pense qu'avec les temps qui nous restent, on peut hésiter à toutes les questions dans la salle. On vous écoute aussi rapidement en une minute.
Michael Mutombo, je pense qu'il ne faut pas qu'on transforme aujourd'hui les Nations Unies en un État ou un gouvernement congolais. Les Nations Unies interviennent sur un certain nombre de choses et le gouvernement congolais doit aussi prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, on peut se poser une question. Est-ce que le petit peuple, l'homme de la rue, sait ce qu'il doit faire ou bien il connaît ce droit? aujourd'hui a une constitution. Combien de gens maîtrisent la constitution aujourd'hui en République démocratique du Congo? On a parlé de classe aujourd'hui. Il y a la classe qui profite de ses acquis de Nations Unies, le fonds et les autres, et autres choses que les Nations Unies apportent en RDC. Est-ce que le petit peuple, l'homme de la rue, peut bénéficier aussi de ces choses-là? Est-ce que l'homme de la rue peut aussi prendre conscience? Si, moi je pense, si l'homme de la rue arrivait à prendre conscience, à se réveiller, à se dire que j'ai vu dans la misère, je crois que les choses peuvent changer. Parce que ceux qui sont à la tête, ils prennent conscience, mais après, un temps, ils changent.
Et cette question est importante. Quand vous dites que l'homme de la rue devrait prendre la conscience pour faire changer les choses, c'est pourquoi, Karine, vous allez accorder la parole au monsieur à votre gauche. Et il peut peut-être emboîter. Est-ce que vous pouvez emboîter sur ce qu'il disait tout à l'heure, que l'homme de la rue devrait prendre conscience? De quelle manière l'homme de la rue pourrait prendre conscience pour faire changer les choses, monsieur?
Monsieur Timothée Mbouya, de Justice à Isbel. J'estime, en effet, comme mon prédécesseur, que la population a un très grand rôle à jouer dans la capitalisation des acquis des Nations Unies de manière générale et de manière particulière dans la capitalisation de la bonne gouvernance. De quelle manière? Tout le monde l'a presque dit ici qu'aujourd'hui, on est dans ce qui est convenu d'appeler République démocratique du Congo. Et dans une démocratie, on connaît bien le rôle et la place que joue la population, notamment à travers les élections. Les prédécesseurs venaient de parler de la Constitution. Je suis d'avis que cette Constitution donne à la population un certain nombre de droits, un certain nombre de garanties fondamentales. Et la population devrait revendiquer ces garanties fondamentales. La population devrait revendiquer ce droit qui lui sont reconnus dans la Constitution à travers plusieurs mécanismes. J'ai parlé ici des élections, j'ai parlé ici des...
Voilà. Rapidement, parce que la réalisation me fait signe que nous sommes coincés par le temps et qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien intervenir. Le micro peut rester juste derrière aussi pour une minute rapidement. On va revenir à gauche. Oui, Hervé, rapidement, en une minute pour que chacun s'explique parce qu'il y a quand même encore 6-7 mecs qui sont là, oui.
Merci beaucoup, M. Pierrot. Je voulais un peu emboîter les pas de M. Agé, surtout beaucoup plus il a parlé des choses un peu importantes. Mais je voulais aussi contredire, ou bon, pas contredire.
Vous avez le droit de contredire.
Merci beaucoup. Alors, je voulais un peu contredire, c'est que la dame, la première dame qui a dit que, bon, voilà, le peuple congolais sans les acquis ou soit les appuis de la MONUSCO, non. Mais ne mâchons pas les mots, ou soit ne mettons pas nos langues dans nos poches. Le peuple congolais souffre, et le peuple congolais ne sent pas ces appuis-là. Ces appuis sont détournés par ceux-là qui sont à la tête. Mais écoutez, M. Bureau, si je voulais un peu parler de ce qu'un acteur politicien de notre pays a dit, les poissons commencent à pourrir à la tête.
Alors, vous estimez que, parce qu'il faudrait qu'on puisse bien asseoir les idées, quand vous parlez du détournement de fonds des Nations Unies par la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UNICEF, l'OMS, les PNUD, de tout ce qui est fait, est plus détourné par les gens qui dirigent, qui occupent les institutions, mais et ça n'arrive à la population.
Bien sûr.
Mais est-ce que tout le monde a la même perception ici? Karine, venez rapidement ici, il y a Félicien qui vient de nous appeler de Kinshasa tout à l'heure, et il va prendre la parole. Il y a beaucoup de mains. Mais c'est vrai. Allez-y rapidement, en fait, monsieur. Vous avez cette impression-là.
C'est Joseph, hein?
Oui, Joseph.
En fait, je voulais juste ici tout simplement rappeler à les gens qui sont avec nous dans la salle d'être très prudents. Hier, j'ai suivi un politicien lors de l'émission Dialogue intercongolais. Hier, il était de la majorité, mais demain, aujourd'hui, il est de l'opposition. Voilà pourquoi j'ai rejoint la dame ici. Il s'agit bien de M. Christian Mwando. C'est lui qui a été à la tête des projets de loi.
Souvent, dans parole aux auditeurs, nous évitons de stigmatiser les gens parce qu'on ne saura pas permettre à la personne de venir se défendre dans cette émission. C'est difficile de pouvoir citer les noms des gens. Ils ne seront pas à mesure de se défendre. On va revenir à vous. Je rappelle encore que nous sommes en direct du centre Aroupé ici pour cette édition spéciale des paroles aux auditeurs. Beaucoup de personnes voudraient bien s'exprimer. Nous sommes ici en direct de Lubumbashi. On pourra vous accorder la parole. Nous avons encore quelques temps.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mèche.
Voilà, on revient directement, Karine. Il y a une personne qui va s'exprimer. J'ai dit encore aux autres auditeurs que nous avons difficile à citer les noms des gens dans cet espace, c'est un échange citoyen, parce que si vous accusez quelqu'un, il faudrait directement qu'il vienne se défendre, et ça sera difficile que la personne se défende. Donc, on vous accorde la parole, monsieur.
Merci beaucoup, c'est Simon Matila. Je voudrais dire un mot par rapport à l'évaluation que nous faisons
de la présence des Nations Unies dans notre pays.
Oui.
Mais j'aurais voulu également que notre professeur puisse évaluer en termes d'argent. Depuis longtemps, combien ces interventions ont pu perdre comme l'argent dans notre pays.
Mm-hmm.
J'ai salué les missions de la paix à l'Est, mais nous n'arrivons pas à comprendre la divergence qu'il y a eu entre le gouvernement, l'armée congolaise et les forces des Nations Unies. Je crois qu'à un moment donné, les Nations Unies apparaissent un peu comme ils soutiennent en quelque sorte le gouvernement. Pour preuve, aujourd'hui au Katanga, dans la ville de Lubumbashi, les manifestations sont suspendues par le maire de la ville, mais où est l'accompagnement? Parce qu'on est là également pour soutenir les institutions d'appel à la démocratie.
Mais je crois que quand il s'agit de questions, l'un des moins l'idée de répondre ni pour les Nations Unies ni pour le gouvernement, mais je crois que quand on parle de partenariat, je pense qu'il y a des discussions peut-être au niveau du leadership des missions qui discutent avec les institutions pour savoir comment les questions peuvent être résolues. Mais est-ce qu'on peut permettre au professeur de réagir
rapidement?
Professeur Emmanuel, je vous dirai rapidement, si on peut avoir une idée, ça représente quoi aujourd'hui tous ces appuis?
Bon, enfin, vous me demandez d'évaluer, de quantifier cela par rapport à ce qui a été dépensé. Moi, je pense qu'on va être beaucoup plus clair et je vais peut-être vous décevoir. En fait, on ne doit pas quantifier le prix de la paix. Si on doit chercher à quantifier le prix de la paix, de la sécurité pour une nation, et quand je parle de nation, je parle du peuple. Ça veut dire qu'en fait, on parle simplement. Je crois que ce qu'on doit noter, c'est que si nous sommes encore aujourd'hui un pays, nous sommes une nation aujourd'hui, c'est grâce notamment aux efforts de l'Organisation des Nations Unies, grâce à la MONUSCO, grâce à la MONUSCO. C'est ce qu'on ne doit pas se cacher la face. On peut bien dire, écoutez, nous les Congolais, nous ceci, nous sommes souverains, mais si nous sommes encore un État aujourd'hui, et si nous pensons nous comporter comme un État, et si nous voulons, comme le dit mon collègue professeur, nous voulons être un État capacitaire, c'est d'abord parce que il y a la communauté internationale qui a entendu nos cris et qui a estimé qu'il faut sauver des vies humaines. Mais combien de gens sont égorgés et combien sont morts dans les Kivu? Parce qu'on a suivi là-bas. Donc quand je parle du Kivu, je suis attaché à cette province-là. Je peux bien vous parler du prix de la paix dans cette province. La ville de Bukavu a connu toutes les guerres qui se sont déroulées dans ce pays. Je suis né dans cette ville-là. La ville de Bukavu a connu toutes. Il y a des villes qui n'ont jamais connu la guerre. Je ne souhaite pas qu'elles connaissent la guerre. Mais Bukavu a connu toutes les guerres qui se sont déroulées dans ce pays. Aujourd'hui, ma mère peut venir à Lubumbashi. Elle peut rentrer.
Et alors là, professeur, on dit que c'est difficile de pouvoir quantifier les prix depuis les efforts qui ont été fournis.
Même si on avait dépensé des milliards et des milliards de dollars.
Oui, mais
si c'est pour la paix, je n'ai pas besoin de compter.
Voilà. Il y a quelqu'un à côté de vous qui s'écoule la tête. Apparemment, il n'est pas d'accord avec. Il n'est pas d'accord avec le professeur. Monsieur, vous prenez la parole. Je rappelle à tous celui qui va intervenir pour les minutes qui suivent qu'on a juste une minute à chacun.
Il n'y a pas pour arriver vraiment à beaucoup de temps.
Ok.
C'est Michel Ruiz.
Mm-hmm.
Je reviens sur le tout premier point. La première mission effectuée par l'ONU au Katanga. L'ONU ne peut pas se glorifier pour cette mission. C'était une honte, un scandale. L'ONU n'avait pas tout simplement respecté ses propres textes. Le droit à chaque peuple de disposer de lui-même. On est en train de déformer aujourd'hui l'histoire. D'ailleurs, les Katangais sont à la Cour internationale de justice à La Haye contre l'ONU. J'aimerais voir un meilleur juriste aller plaider pour l'ONU.
Alors voilà.
Non, permettez que je termine.
Voilà.
Permettez.
On va dire, je vais dire ceci.
Je
vais dire ceci. J'ai la parole, c'est moi qui dirige.
Je termine.
Vous allez terminer. Vous allez terminer. Vous allez terminer. Nous sommes dans un échange. Nous sommes dans un échange, s'il vous plaît.
De ne pas respecter la constitution, de ne pas respecter la loi, pendant qu'elle-même y a à sa charge le droit international. Mais ne peut pas respecter.
Mais nous sommes dans un échange.
Pas ce droit-là.
Mais
c'est à vous de suivre comment.
Voilà, nous sommes dans un échange. On va vous confisquer le micro. Voilà, c'est très bien la salle. Mais je voudrais que vous puissiez vous apaiser. Ne vous fâchez pas, messieurs, s'il vous plaît. Nous sommes dans un échange citoyen. On a compris que c'est très passionné votre souci. La population est libre d'attaquer les Nations Unies.
nous sommes dans un débat public, vous n'allez pas vous fâcher. Il y a les mots et la manière de pouvoir les dire. Nous sommes dans un échange. Maintenant, vous vous êtes apaisé. Je vois que vous souriez maintenant. C'est très bien. On peut continuer. Voilà. Professeur, est-ce que vous pouvez dire un mot rapidement, 30 secondes, pour répondre à cette question?
Sauf que votre honneur, mais vous savez que le Katanga, si nous parlons sérieusement, et je parle comme scientifique, le Katanga n'a jamais été un État. Sauf si vous, oui, si vous voulez que ça fasse plaisir, oui, mais ça n'a jamais été un État.
Voilà, je vois le professeur a précisé, c'est une question d'histoire. On va évoluer, on va évoluer. Oui, merci beaucoup, professeur.
Le Katanga avait un territoire, avait une population, avait une monnaie, un drapeau. Mais le Katanga n'avait pas de souveraineté et n'a jamais été reconnu par aucun État au monde.
Voilà, je crois que le professeur a pu.
Vous me dites que je me convertis, je vous donne le bien.
Voilà, merci.
Non, le Katanga n'a jamais été reconnu par aucun État.
Merci, professeur, pour toutes les.
Sinon, la Palestine aussi, c'est un État pour vous.
Voilà, merci beaucoup, professeur. Mais Nelly, cette fois-ci, il peut s'assumer. Les jeunes sont restés longtemps debout. Je crois que la question est très, très passionnée. Mais je crois que pour le reste qui vont s'exprimer, c'est un échange citoyen. Mais c'est déjà très bon la manière dont les gens parlent et les disent. Il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer. Je crois même que les papayes en train de sourire, ça fait plaisir. On s'est mis d'accord. Oh, monsieur, vous avez la parole un peu rapidement.
Merci. Moi, c'est ça, je m'appelle Dano. Capitaliser les efforts de l'ONU, c'est respecter les textes. La RDC doit rester une et indivisible, la souveraineté nationale. De deux, quand je parle du respect des textes, nous avons tous consenti aux efforts de l'ONU, population civile, gouvernement et toutes les équipes de l'ONU, et bravo à tout le monde. Mais je me dis, on est encore au début. Nous devons aujourd'hui encore renforcer ces actions. Nos textes nous disent... nous devons respecter la Constitution. Ça veut dire non au troisième mandat. Nous devons le respecter. Lorsqu'on dit à l'article 63, nous tous, citoyens congolais, avons le droit et le devoir sacré de défendre la patrie. C'est pas seulement le gouvernement. Nous, population civile, on doit
cultiver. Vous estimez que chaque personne a le droit de le faire.
Exact.
Voilà, il y a un fait, rapidement,
les Nations Unies doivent
être proactives.
Ça veut dire, n'intervenez pas après
la violence féminine. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Il y a une voix féminine. Il y a une voix féminine à merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Rapidement, parce que c'est une voix féminine.
Les hommes ont beaucoup parlé depuis longtemps, oui. Dans une ville qui n'ont pas cette parole.
Ah, dommage. Voilà, il y a une dame qui peut s'exprimer.
En tout cas, merci pour la parole. Je m'appelle Nick. En fait, je me suis rendu compte que la RDC n'a pas seulement besoin des organisations internationales pour se développer. C'est vraiment un grand pays, on est riche, il y a des gens compétents et tout. Mais seulement, il faut qu'on se rende compte que les gens qui sont là au pouvoir ne doivent pas s'éterniser. Il faut faire passer le temps et que d'autres aussi participent, enfin qu'on puisse voir comment est-ce que les gens compétents peuvent apporter un plus grand.
Et vous avez évoqué la question de l'alternance, et Rachid Akida, rapidement, vous venez d'ailleurs tout à l'heure d'évoquer la question de l'alternance. Quand je regarde la salle, on sent que ça chauffe, les gens ont les soucis de voir les choses évoluer, de voir les choses s'améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre rapidement pour compléter ce qui a été dit?
C'est justement ce qui est à la base du conflit ici en République démocratique du Congo. Pour rappel, nous avions connu la guerre en 2001. Et lorsque les Nations Unies ont amené toutes les parties en présence pour mettre fin à ces conflits, c'est question d'alternance. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas partir. Ils veulent rester des siècles et des siècles au pouvoir. Pendant que les autres ont besoin d'accéder aussi au pouvoir. Et l'accession au pouvoir doit se faire d'une manière démocratique. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à ce qui est organisation des élections pour que le meilleur puisse l'emporter.
Voilà
ce que nous complétons à la date.
Voilà, donnez la parole alors Karine rapidement. Il nous reste que 11 minutes pour terminer cette émission. Si nous prenons 6 personnes en raison d'une minute, on aura fait everything. Tout le monde ne pourra pas s'exprimer. Rapidement, on vous écoute, monsieur.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis un citoyen congolais. Et je voudrais juste dire que tout le temps que les Nations Unies existera dans ce pays, quelque part, ils nous ont aidés. Mais le plus important, nous, en tant que la jeunesse, je voudrais parler tout juste de la mauvaise gouvernance dont on nous parle aujourd'hui. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on se demande de réellement, que sera-t-il ce pays? Parce que nos vieux là qui nous dirigent, que ce soit les Nations, ils ont besoin de se remplacer et nous, parce qu'ils vont vieillir, nous sommes encore trop jeunes. Tant qu'on ne pensera pas à bien partager la richesse de ce pays pour nous, les jeunesses, nous avons, nous terminons les études, mais on n'a n'arrive pas à accéder aux emplois, on nous demande des expériences. On se demande si les Nations Unies ne peuvent pas faire le précédent du gouvernement congolais avec ces histoires de, avec ces histoires de
expériences,
on nous demande si c'est terminé. Et puis voilà. Si on ne fera pas ça, il y aura toujours des troubles, même si les Nations Unies restent, on ne trouvera pas de
solution. Il y a cette responsabilité du oui? pouvoir. Mais nous avons oublié quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de nous appeler de Kinshasa. On va lui accorder la parole. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Merci de nous avoir appelé. On est déjà vers la fin de l'émission ici à Lubumbashi. Félicien, vous n'avez qu'une minute pour vous exprimer comment capitaliser les acquis des Nations Unies. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Ah, bonjour Pierrot, bonjour les capitaines de la technique. Moi, je dis que c'est un grand bénéfice pour la République démocratique du Congo d'avoir l'ONU ici sur place parce que tout ce que l'ONU réalise qui n'a pas été budgétisé, c'est un bénéfice pour notre pays. Quand nous voyons les infrastructures que l'ONU fait, quand nous voyons parfois au moment donné les avions de l'ONU nous ont aidés avec les transports de matériel électoral, ce qui devait nous coûter cher nous-mêmes, alors que nous n'avions pas d'hélicoptère qui pouvait arriver dans tout le coin. Quand nous voyons les écoles et tout ça, nous pensons que c'est un bénéfice pour nous et nous devions chercher à capitaliser ça. Et du côté de la guerre, avec toute la logistique que l'ONU a apportée, si nous avions la volonté de mettre fin à cette guerre, on l'aurait déjà fait. Mais je pense que nous-mêmes, nous sommes quelque part responsables de cette guerre qui se termine pas. Je passe du temps pour me détailler, mais je pense que...
Oui, Félicien, c'est déjà important. Les habitants de Lubumbashi, les auditeurs vous ont suivi. Vous avez évoqué tout à l'heure la volonté. Il y a dans le couloir une voix féminine rapidement. Ne me jetez pas les pierres parce que tout le monde ne pourra pas vraiment prendre la parole. On est bousculé par les temps. S'il vous plaît, rapidement.
Ah, une autre voix féminine. Colette Bouchiri, directrice de modération et de presse à la JMF, jeunesse mondiale francophone. La jeunesse congolaise se sent vraiment écartée en ce qui concerne le pouvoir en RDC. Il faudrait aussi signaler, en fait, je voudrais tout simplement dire que si les autorités peuvent penser aussi à intéresser le jeune en ce qui concerne le pouvoir ou peut-être à l'évolution de ces, de notre pays, je pense que ça sera
mieux. Les choses peuvent marcher. Et professeur, rapidement, comment la jeunesse peut-elle être intégrée dans le processus rapidement pour compléter ce qui venait d'être dit par le deux jeunes?
Il y a plusieurs manières pour la jeunesse de pouvoir s'intégrer. D'abord, c'est à travers les organisations. Les jeunes doivent s'organiser. En plus de cela, peut-être je pourrais scandaliser certains d'entre vous, les jeunes sont très nombreux, ils sont des grands consommateurs sur le plan de l'habillement, sur le plan de la nourriture et ont beaucoup d'ambition. Et à ce titre, les jeunes constituent ici un élément important de la révolution. Ils peuvent s'engager dans des mouvements révolutionnaires et changer la situation. Donc, il ne faudrait pas que les jeunes attendent que tout leur soit accordé.
Voilà, Nelly, rapidement, là-bas, s'il vous plaît, Nelly, il faut accorder la parole à la jeunesse encore. Je vois une voix féminine, rapidement. Nelly, rapidement, oui.
Justement, nous avons une auditrice qui a besoin de poser la question aux invités.
Et rapidement, oui.
Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Adrienne Amouyès, auditrice de cette merveilleuse émission. Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord dire que je ne pense pas que c'est seulement ici chez nous. Comme dans tous les pays, la RDC a besoin aussi de l'aide ainsi que de l'appui de l'ONU. Ma question est trop simple. J'aimerais juste savoir, bien que vous nous avez dit dans l'introduction les années que la RDC a parcouru avec l'ONU, j'aimerais juste savoir les bilans ou la statistique. La statistique, donc, de toutes ces années.
Voilà. Est-ce que, rapidement, Rachid Yakida, on peut se faire juste une idée c'est peut-être ça sera compliqué de pouvoir, d'une manière concrète, dire qu'est-ce qui s'est fait au juste, parce qu'il y a beaucoup d'agences ici, c'est des Nations Unies qui appuient la RDC. Pouvez-vous dire un mot rapidement par rapport à cette question?
Bon, je voudrais juste dire que le bilan est négatif, mademoiselle. Pourquoi? Parce que nous avons reçu beaucoup de dons, beaucoup d'appui des Nations Unies, mais la population n'a pas bénéficié de tous ces appuis-là. Donc, pour nous,
le fait que la population n'a pas bénéficié et que tous ces dons ont été détournés par ce qu'on appelle caste au pouvoir, donc une classe qui est qui est en train de gérer tout, et pour vous, vous n'avez pas parlé
le bilan de l'appui est négatif.
Non, pour la population, c'est négatif.
Voilà.
Mais pour les Nations Unies, elles ont fait beaucoup de choses, mais qui n'ont pas bénéficié à la population.
Voilà, rapidement, Karine, rapidement, il y a un monsieur.
Pour tous les gens qui veulent parler, donc je ne sais pas comment ça se passe.
Dommage, nous allons gérer maintenant à 30 secondes.
Moi, c'est M. Jean Moussanganté. Je voulais poser la question à vos invités.
Oui, allez-y.
Ils sont sur le plateau. Il a été demandé à la société civile de nous présenter quelqu'un qui devait succéder à l'abbé Malumalu. Aujourd'hui, la chose a été faite, mais l'Église catholique ne reconnaît pas ça. Que disent vos invités?
Voilà, peut-être que ça n'a pas été évoqué dans notre sujet principal aujourd'hui, mais Rachid Yakida, c'est la société civile qui a été accusée. Disons, l'Église catholique ne se reconnaît pas dans ses choix. Est-ce que ça peut aller, ça peut avoir un impact sur le procès électoral rapidement, Rachid Yakida, parce que c'est la société civile qui est concernée?
Mais la personne qui a été désignée, vous le savez très bien, on ne peut pas aller derrière le dos de la prière. Cette personne a été désignée par le pouvoir. Elle n'est pas venue de la société civile. Et la société, les ONG.
Les
ONG ont déjà dénoncé que toutes ces personnes qui ont été désignées là-bas sont à la solde du pouvoir.
Et vous, donc, pour nous, pas avoir un impact sur le
pouvoir. Il n'aura pas d'impact parce qu'ils sont là pour défendre les pouvoirs.
On donne la parole à côté d'Eneli à Indo là-bas, rapidement, oui.
Ok. Merci, monsieur. Moi, c'est Félix Njoko, l'étudiant de deuxième licence en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. J'ai suivi l'une personne après l'autre.
Vous avez 40 secondes.
Oui, oui. J'ai bien suivi que tout tourne autour de la bonne gouvernance.
Mm-hmm.
Est-ce que ma question s'adresse à votre Dieu Fumodimi? Je voudrais savoir, parce que vous avez dit que les jeunes sont vité à un problème afin de réclamer leurs droits dans la République démocratique du Congo. Étant donné que les hommes politiques dirigeants de notre pays n'ont pas encore changé leur mentalité, est-ce que vous pensez que ça peut les jeunes aboutiront à une solution meilleure?
Rapidement, dans 20 secondes, rapidement.
Oui,
les changements de mentalité.
Oui, tout est fonction de l'idée que les jeunes se font d'eux-mêmes. S'ils pensent qu'ils peuvent agir, celui qui veut, il peut. Mais s'ils pensent qu'ils ne peuvent rien, alors ils continueront à demeurer dans leur situation. C'est pourquoi moi, personnellement, j'insiste encore sur l'organisation de la jeunesse qui est au besoin et l'engagement de cette jeunesse dans le mouvement révolutionnaire.
Merci, professeur. Une voix féminine pour 30 secondes, parce que là, je vous assure qu'on va bientôt terminer l'émission.
Si je voulais clôturer, comme c'est la dernière personne, j'ai une question pour la société civile. J'ai une question pour la société civile. La société civile, oui. On vous a demandé quelqu'un comme on vient de le poser comme question. Vous nous répondez que c'est le gouvernement qui a mis sa personne. Mais vous êtes société civile. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de marche par rapport à cette désignation.
Voilà, vous allez répondre après. Nelly, s'il vous plaît, donnez. Il y a quelqu'un qui a commencé à demander la parole depuis le début de l'émission. En chemise blanche avec la main juste derrière. Le monsieur en chemise blanche, oui, ici.
Voilà.
Oui,
voilà.
Oui, c'est depuis le début de l'émission. Monsieur, rapidement, 30 secondes.
C'est Ismaël Mopo de Lubumbashi.
Ah, voilà, vous intervenez beaucoup dans la parole aux auditeurs.
Oui, j'espère que la MONUSCO, le bilan, je peux penser que ça peut être positif. Dans le sens qu'ils ont eu la paix, mais à l'évidence, ils n'ont pas poursuivi cette paix. Quels sont quelques mécanismes qu'ils peuvent faire pour lui qu'on puisse garantir la paix? Et par rapport à UNICEF, l'OMS, nous avons pu constater que le média africain conteste même le vaccin et tout ce qui se passe ici. Mais quelle est la part de responsabilité de la MONUSCO à tout ce qui se passe? Par exemple, de maladies qui résistaient à des vaccins. Aujourd'hui,
mais comme vous avez dit, je ne crois pas que la MONUSCO soit à mesure de répondre à une question qui touche aux maladies, parce qu'il y a l'UNICEF, l'OMS, je crois bien. Mais dommage qu'ils ne sauront pas répondre, parce que la question était de savoir ce que nous faisons pour nous approprier leurs acquis. Rapidement, Karine, je crois qu'on va bientôt balancer les dingues pour la clôture de cette émission. En 30 secondes derrière.
Monsieur, avec moi, monsieur Georges Mahuné, qui a une question.
Merci beaucoup. Je pense que je vais intervenir rapidement sur la gouvernance. En fait, concernant la gouvernance, ce que nous avons tous étudié ensemble dans la salle, gouverner, c'est prévoir. C'est difficile, c'est inadmissible de constater ce que nous vivons actuellement dans notre pays. On prévoit l'ingouvernabilité. Je m'explique. Je donne l'exemple de la nomination, par exemple, des commissaires généraux. Chose qui est anticonstitutionnelle. C'est-à-dire, c'est une prévision de l'ingouvernabilité. En fait, qui concerne
la nation, d'ailleurs, nous l'avions évoqué dans beaucoup de
les Nations Unies. Par exemple, je donne les opérations militaires à l'Est.
Dommage qu'on vous retire la parole parce qu'on est en train de déjà de clôturer. Il y a 10 secondes à accorder à monsieur. J'étais déjà fâché contre Nelly. J'ai vu depuis le début de l'émission. En 10 secondes rapidement, Karine, on ne saura plus prendre la salle parce que là, la réalisation me communique que les minutes qui nous ont été données se terminent. On doit retourner à Kinshasa pour la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. On vous écoute rapidement, monsieur.
Merci, monsieur Thierry. C'est Junior Monga, président provincial du Parlement des Jeunes.
Rapidement, monsieur le président.
Vous voulez l'alternance démocratique avec quelle catégorie? Des vieux ou bien des nous jeunes?
Et c'est pas moi de vous dire si moi je veux que vous soyez vous jeunes ou les vieux. Alors, si c'est comme ça, on donne la parole au professeur. Professeur, vous avez 10 secondes pour conclure cette émission. En 10 secondes, s'il vous plaît.
Alors, en 10 secondes, ce que j'ai pu noter, c'est tout ce qui s'est fait dans la salle. Il est donc apparu qu'il faut gouverner correctement la société congolaise.
Voilà.
Et donc, nous devons apprendre à habiter la République. Et la République, ce n'est pas la chose d'un individu,
professeur.
C'est pas la chose d'un parti politique.
Rachid Yakida, dans 10 secondes, conclure aussi cette émission et puis le professeur bien aussi en 10 secondes.
Nous demandons seulement de favoriser les vertus républicaines et combattre la corruption, l'impunité et cesser d'intimider les gens du genre de, comme l'honorable Banza qui a été interpellé à la mer. Laisser les acteurs politiques d'exercer leur liberté.
Le professeur Jeff Moudimbi, à 10 secondes, conclure aussi l'émission.
Merci, je voudrais tout simplement exhorter la population congolaise à aimer sa patrie.
Merci beaucoup, merci à toute la salle, tous vos applaudissements, bien sûr, que tout le monde ne s'est pas exprimé. Ah, c'est par là que nous mettons un point final à cette édition spéciale des paroles aux auditeurs, ici au centre Aroupé pour la recherche et la formation à Lubumbashi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Toute l'équipe, bien sûr, la mise en onde ici est assurée par Bob Landou et Alain Bidoya, coordonne l'équipe technique et en s'assurant, bien sûr, de la liaison et la coordination. Karine Sopé et Nelly Kabena dans cette salle avec les auditeurs Jean-Andou, Paulin Mounanga, Madeleine Waïla, Denise Maéo, Paulin Jumamousson pour toute l'équipe. Nous a soutenus dans la production avec Julie Feza dans la réalisation au studio central de Lubumbashi. Julie Feza qui est déjà avec nous dans cette salle dans les couloirs pour ceux qui voudraient bien la voir. Elle est déjà là. Pierre Tiasuno a assuré la mise en onde au studio central et Pierrot et la Meji étaient devant vous dans ces salle au micro pour la présentation de cette émission coordonnée par Nana Rosine Gangoué. Tout à l'heure, on va retourner à Kinshasa pour la conférence des presse hebdomadaires des Nations Unies. Nous remercions notre partenaire et sponsor de parole aux auditeurs spéciales à Lubumbashi. Nous avons cité la Bralima. Merci à tous et on se retrouve dans les prochaines éditions de Parole aux auditeurs. Au revoir. Sous vos applaudissements, bien sûr.